Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, le magazine hebdomadaire de notre web radio Micro Rebelle. Micro Rebelle Hebdo est diffusé chaque vendredi à 18h durant une heure et donc jusque 19h. Vous pouvez l'écouter directement sur notre site micro-rebelle.fr ou avec l'appli de la Franf. À noter que nos amis de Radio PFM dans l'Arrajois nous rediffusent tous les vendredis à 20h, tous les samedis à 7h30 et le dimanche à 14h. Radio PFM, c'est sur le 99.9 ou en DAB+. Nous venons donc de vivre une première semaine de déconfinement, avec en particulier la réouverture partielle des écoles. Partielle ou très partielle, puisque par exemple, dans le bassin minier, la majorité des collectivités locales ont décidé de ne pas réouvrir leurs écoles tant que les conditions sanitaires ne seraient pas garanties. Et puis cette première semaine de déconfinement, il faut reconnaître que de nombreuses personnes l'attendaient. C'est donc un sentiment un peu mitigé et fait de contradictions qui domine. À la fois, on est content de revoir ses proches, ses amis et aussi ses collègues, et dans le même temps, il y a la crainte de la circulation du virus, et notamment de cette fameuse deuxième vague. Dans l'actualité, dans la presse, il est maintenant régulièrement question du jour d'après, et plus largement, du monde d'après. Reste à savoir ce que chacune et chacun met derrière ces termes. Cette semaine, dans La Voix du Nord, on pouvait par exemple lire ce titre concernant le territoire de Bruay-la-Bussière. Dans le monde d'après, on n'a pas oublié les zones commerciales. Et en sous-titre, le monde d'après, ce n'est pas pour tout de suite. Hier, jour de déconfinement et de réouverture des centres commerciaux, les zones de la Porte Nord et d'Actipolis ont plus attiré le chaland qu'un jour de semaine ordinaire. Rush à prévoir ce week-end ? Fin de citation. Ainsi, le monde d'après ressemble fortement au monde d'avant et on a envie de dire, on continue comme ça jusqu'à la prochaine crise ? Dans tous les cas, le monde d'après, tel qu'il nous est proposé, a quand même de sérieux points de ressemblance avec le monde d'avant, tout au moins en ce qui concerne l'emploi. On pourrait même dire que la situation est bien plus catastrophique. Ainsi, la Voix du Nord relève, je cite, « Les États-Unis ont enregistré plus de 2,98 millions de nouvelles demandes d'allocations chômage en une seule semaine, ce qui devrait conforter l'administration Trump dans sa volonté de redémarrer rapidement l'économie. En Australie, 600 000 personnes ont perdu leur emploi en avril en raison de la baisse d'activité, le chiffre le plus élevé en plus de 40 ans. Dans les Hauts-de-France, toujours selon la Voix du Nord, ce titre, une entreprise sur cinq envisage de licencier. Une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France montre l'impact du coronavirus sur l'économie régionale. Je vous lis un extrait de cet article. Le baromètre mensuel que publie la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France sur la situation économique des entreprises régionales est au plus rouge, avec un chiffre qui fait peur. Après 9 semaines de confinement, 19% des 9242 entreprises ayant répondu à l'enquête envisagent de licencier. Fin de citation. Ainsi, les salariés seront les premières et les premiers à subir le contre-coup de cette crise, une crise dont ils et elles ne sont pas responsables et qu'ils ont été les premiers à subir, parfois dans de très mauvaises conditions, au détriment de leur santé ou de leur vie. Et les employeurs et le patronat. Cette semaine, la Voix du Nord donne complaisamment la parole à Jean-Paul Lempereur, le patron du groupe Lempereur. Le groupe Lempereur, bien connu dans le bassin minier, c'est des concessions automobiles qui fleurissent par exemple à Liévin. On a vraiment envie de plaindre ce patron. Extrait. En titre, entre le 15 mars et le 11 mai, nous n'aurons vendu aucune voiture. Et ensuite, question de la Voix du Nord. Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur votre activité ? Réponse de Jean-Paul Lempereur. Le confinement est tombé au pire moment. Le week-end du 15 mars, nous étions en plein portes ouvertes. Nous avions dépensé beaucoup de budget en communication, mais tout s'est arrêté net. Les concessions sont restées fermées. C'est simple, entre le 15 mars et le 11 mai, nous n'aurons vendu aucune voiture, alors qu'en moyenne, nous aurions dû faire de l'ordre de 500 véhicules neufs et 600 véhicules d'occasion, voire 2000 véhicules sur toute la période. On a prolongé les contrats de location qui arrivaient à échéance durant le confinement. Pour ces clients-là, il y aura renouvellement de véhicules ensuite. Mais la question se pose pour ceux qui souhaitaient changer de voiture. Est-ce qu'on va être leur priorité une fois le confinement levé? Je ne pense pas. Fin de citation. La Voix du Nord ne le dit pas. Mais pour ce qui nous concerne, nous n'avons aucune crainte. Jean-Paul Lempereur saura se sortir de ce mauvais pas. Cette semaine, le groupe Sanofi, grand groupe pharmaceutique lancé dans la course au vaccin contre le coronavirus, a défrayé la chronique en annonçant que les États-Unis, qui financent en partie les recherches du groupe, pourraient bénéficier des premières commandes avant les autres États. Cette annonce a été démentie, mais elle reflète bien la réalité du monde capitaliste, que ce soit le monde d'avant ou le monde d'après. Cette réalité est assez simple, celui qui ouvre son chéquier a le droit de passer avant les autres. Le groupe Sanofi a réalisé un bénéfice net de 2,8 milliards d'euros en 2019 et touche 150 millions de crédits d'impôts recherche par an. Et on peut se poser la question, et si le monde d'après, c'était de sortir l'industrie pharmaceutique de la loi du marché? Nous ne pensons pas ici à la nationalisation de cette industrie, mais à ce que le mouvement ouvrier appelle la socialisation. Il ne s'agit pas que l'État devienne actionnaire majoritaire ou unique, mais en restant dans le cadre de la concurrence capitaliste. Il s'agit d'abord d'exproprier les capitalistes, les actionnaires, qui possèdent les entreprises pharmaceutiques. Ensuite, il s'agit de réorganiser le travail, la production, la recherche, sous la responsabilité des travailleurs et travailleuses et celle des usagers, c'est-à-dire les représentantes et représentants de la population. Le tout afin de décider des priorités de la recherche et de la production. C'est ce type de réflexion, ce type d'initiative qui peuvent réellement dessiner un autre monde d'après. On termine ce tour d'horizon de l'actualité et de la presse par une nouvelle plutôt réjouissante. Cédric Herrou a été renvoyé de toutes les poursuites à son encontre. Je vous lis la brève parue dans La Voix du Nord. Symbole de l'aide aux migrants, l'agriculteur militant de la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne, a été renvoyé de toutes les poursuites à son encontre, hier, par la cour d'appel de Lyon. Il a été également dispensé de peine pour les faits d'installation en réunion sur un terrain appartenant à autrui, sans autorisation, en l'espèce une colonie désaffectée de la SNCF. Cédric Herrou avait saisi le Conseil constitutionnel après avoir été condamné en 2017 à 4 mois de prison avec sursis pour avoir convoyé 200 migrants, principalement érythréens et soudanais, de la frontière italienne jusqu'à chez lui, puis d'avoir organisé un camp d'accueil. Reportage maintenant dans ce micro-rebelle hebdo. Nous donnons la parole au comité des personnes sans papiers, les CSP, concernant les centres de rétention administrative, les CRA, qu'on appelle également les CRA. C'est un reportage d'Elsa.
Un ensemble d'organisations dénonce la bombe sanitaire pendant ce confinement dans les foyers d'immigrés et dans les centres de rétention administrative, à savoir prisons pour sans-papiers, qui sont restés ouverts pendant la crise du Covid-19, malgré les cris d'alarme des personnes enfermées faisant état d'une propagation du virus sans aucune mesure de protection. Les principales revendications sont la régularisation de tous les sans-papiers, la fermeture des CRA, CRA, centres de rétention administrative, et la suspension des loyers des foyers pour les mois de mars, avril et mai. Les frontières prétendument fermées pendant ce confinement n'ont pas empêché que l'État français continue d'expulser des personnes pendant ces derniers mois. Pour nous parler donc de la situation dans les CRA, donc centre de rétention administrative et dans les foyers, nous avons contacté Monsieur Anzouman Sissoko, porte-parole du CSP 75, donc le comité des sans-papiers d'Île-de-France. Et puis ensuite, nous entendrons donc Monsieur Roland Diagne, qui est lui porte-parole du CSP 59, donc le comité des sans-papiers du Nord, pour une explication de la situation plus locale.
Alors moi je m'appelle Sissoko Anjouman, je suis le porte de la coordination 75 des sans-papiers et aussi l'un des porte-parole de la coalition internationale de sans-papiers et migrants qui est aujourd'hui dans 10 pays en Europe et 7 pays en Afrique.
Je vous contacte parce qu'on est en pleine crise sanitaire du coronavirus et un bon nombre d'organisations ont signé un appel concernant les foyers, les centres de rétention administrative, les sans-papiers et parlent d'une bombe sanitaire. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que sont ces foyers, ce que sont ces centres de rétention administrative, qui y vit, qui y sont enfermés et pourquoi ?
Ben, les centres de rétention administrative, c'est le lieu où on met les sans-papiers une fois contrôlés dans les rues de France, qui sont dépourvus de séjour. On les amène au centre de rétention administrative, le temps de faire des démarches pour expulser, les expulser dans leur pays d'origine. Donc c'est un lieu de privation de droits, parce que c'est un lieu où on parque les gens et ils sont tous dans un même endroit. Ils sont tous confinés ensemble, quoi. Il suffit qu'une personne est contaminée, que tout le reste des gens du secteur soit contaminé parce qu'ils sont tous ensemble dans le même endroit.
Il y a 24 CRA en France et tous ont continué à fonctionner. Alors, il y a eu des réactions à partir du 16 mars, donc date du confinement, de la part des personnes étant enfermées à l'intérieur et de la part des soutiens. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ces réactions par rapport à ce que vous venez de décrire du risque sanitaire à être enfermé tous ensemble ?
Ben, ces réactions sont normales et sont justes aussi parce qu'elles sont compréhensibles dans la mesure où ces lieux sont des lieux vraiment où on parque les gens et que il n'y a pas d'autre possibilité de confiner les gens séparément avec les autres. Donc c'est pour ça les gens qui sont dans les cas de Vincennes par exemple ou de Mini-Lamello se sont révoltés en disant que c'est mieux qu'ils soient libres pour être confinés avec leur famille. Et il y a aussi des associations qui sont dans les centres de rétention administrative qui apportent des soutiens logistique en termes de droits aux migrants dans les centres de rétention ont aussi alerté le pouvoir public que ce serait mieux de fermer ces centres de rétention le temps du confinement. Ils n'ont pas été entendus et il y a eu pas mal de choses qui se sont bougées. Même nous, au niveau parisien, on avait une manifestation qui était prévue le 21 mars qui finalement n'a pas eu lieu parce qu'on était dans le confinement. Où nos revendications, c'était de fermer les centres de rétention administratifs le temps du confinement. Personne n'a été écouté, le gouvernement est resté sourd. Et voilà, on est actuellement dans cette situation, il continue, d'après les informations qui nous reviennent, il continue malgré tout ça à expulser les gens pendant cette période de confinement, à l'insu de tout le monde. Ouais. Donc ça, c'est quand même quelque chose de ne pas... pas juste, quoi.
Oui, on a même entendu parler de certains exemples, notamment les détenus du centre de rétention administrative de Lille, qui, dès le 13 mars, donc même avant la date de confinement, alertaient sur le cas d'un coronavirus et ils ont entamé une grève de la faim. Donc même malgré des réactions aussi fortes comme la grève de la faim, il n'y a pas eu de réponse en retour.
Non, malgré la grève de la faim, malgré les manifestations, il y a certains endroits même qui ont été brûlés. Ils les ont déplacés pour aller dans d'autres lieux, pas très loin. Ils n'ont pas voulu fermer directement les centres de rétention pour ainsi donner la possibilité aux gens de se confiner avec leur famille. Donc ce sont des choses qui sont inadmissibles dans un pays comme la France aujourd'hui, où on essaye de maintenir quoi qui arrivera aux sans-papiers, aux migrants et aux réfugiés, et le risque d'être contaminé, on les maintient en rétention quand même. Et ça c'est des choses que nous continuons à dénoncer. Et d'appel, on fait un appel à tout le monde pour une manifestation le 30 mai, parce que le confinement va finir le 11, et on appelle à tous les citoyens français, parce qu'actuellement, il y a eu beaucoup d'appels, même des élus, des parlementaires qui appellent à la régularisation des sans-papiers pour des raisons sanitaires. même s'ils n'appellent pas de la même manière que nous. Donc c'est le moment est vraiment venu pour faire une mobilisation le plus large possible et dénoncer le comportement du gouvernement et demander non seulement la fermeture des centres de détention, la régularisation de tout le monde. Et les foyers sont les endroits les plus pires encore que les centres de détention, parce que les gens sont souvent confinés à 5, 6, voire 6, 7 personnes dans des 8 mètres carrés. Et imaginez, il y a 600 000 sans-papiers en France qui sont confinés dans des conditions comme ça, qu'à partir du 11, ils seront libres. Donc le gouvernement n'anticipe pas pour faire des tests à grande échelle dans les foyers, donner des masques, des gants et des gels dans les foyers, ils font rien. Et tout ça, nous appelons à cette manifestation pour que tous les Français nous soutiennent dans ces revendications, notamment la fermeture des centres de rétention, la régularisation inconditionnelle et immédiate de tous les sans-papiers, et aussi la suspension des loyers dans les foyers pour les 3 mois de confinement, notamment mars, avril et mai.
Ben, mon nom c'est Roland Diagne et je suis porte-parole du comité des sans-papiers 59, membre de la coordination nationale des sans-papiers historiquement et depuis 1996, donc ça fait 24 ans quoi. Le comité des sans-papiers, c'est un comité qui est né 59, hein, qui est né exactement en août, le 23 août 1996. Après une première lutte de sans-papiers, soutenue par un réseau correct d'associations, de sans-papiers, parents d'enfants français, soutenu par un réseau associatif à l'époque, courant juin. Pendant et au cours de cette lutte-là, que d'autres sans-papiers de différentes catégories sont venus se greffer à ce mouvement autour des parents d'enfants français, ils étaient 13, qui avaient fait une grève de la faim, et que ce sont ces sans-papiers qui, à la suite de la victoire, avec l'obtention de la carte d'asile de 10 ans, que ces sans-papiers ont créé le comité des sans-papiers de Lille à l'époque, qui est devenu par la suite comité des sans-papiers 59 du département du Nord de la France.
J'imagine que le comité des sans-papiers 59 est en lien avec toutes les personnes vivant en foyer et aussi des personnes qui sont enfermées en centre de rétention administrative. Alors, sur le Nord-Pas-de-Calais, on compte un CRA à Coquel, près de Calais, et deux sites à Lesquin, près de Lille.
Lesquin.
Ouais. Mmh. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la réalité de ces foyers et de ces CRA?
En général, c'est des centres d'enfermement. La particularité de Coquel par rapport, ou la différence de Coquel par rapport à Lesquin, c'est sur place qu'on peut organiser directement, en fait, une forme d'enfermement particulier, quoi. C'est la grande différence. Ceci dit, Coquel se situe plutôt dans le Pas-de-Calais, et Lesquin, c'est plutôt le Nord, quoi, concrètement. Après, maintenant, en fait, rien n'empêche, malgré le fait qu'il y ait deux préfectures là, mais comme c'est une préfecture de région, Lille peut enfermer facilement dans le Pas-de-Calais, quoi, concrètement. Depuis la pandémie, la particularité, c'est que Lesquin et Coquel ont été en partie vidés, notamment suite à un mouvement interne où les sans-papiers qui étaient enfermés là, vous voyez les policiers qui les encadraient ou les surveillaient plutôt, eux avaient des précautions, à savoir ils avaient des gants, des masques, etc. Et ils n'avaient absolument rien du tout dans le cadre de l'enfermement. Donc ils ont commencé à bouder tout simplement les repas. D'aucuns ont véhiculé qu'ils ont fait grève la faim, mais en fait ils ont clairement dit que nous refusons de manger dans ces conditions-là. Ils n'ont pas déclaré une grève la faim, mais ils ont dit clairement qu'on refuse de manger dans ces conditions-là, très clairement. Et ensuite le juge de liberté a libéré, on estime à peu près une soixantaine de personnes à l'époque, un peu plus de 60 à 70 enfermés là. Eh bien, il en restait 7 au début du confinement. À peu près 7, ouais, 6 ou 7 au début du confinement. Concrètement, ce sont les informations qu'on a eues. Depuis lors, en fait, on n'a pas eu de retour du centre de rétention. Alors, on ne sait plus exactement s'il y a des gens dedans, etc. Et comme on ne peut plus, avec le confinement, se déplacer pour aller voir un peu concrètement. Donc, la seule méthode pour vérifier ça, c'est d'utiliser les téléphones d'appeler sur les téléphones fixes qu'il y a dans, à l'intérieur des différents blocs du centre de détention de l'Équin, quoi, pour, voilà. Mais les comités, les sans-papiers du comité des sans-papiers 59, il n'y a personne qui est en centre de détention actuellement.
J'ai vu passer un communiqué signé par un bon nombre d'organisations qui dénonçait une bombe sanitaire. Donc, vous en avez un peu parlé là, dans les centres de rétention administrative, également dans les foyers, avec un bon nombre de revendications. Vous, au niveau du comité sans papier 59, quelles ont été vos prises de position par rapport à ces situations en temps de confinement et aussi de manière plus générale sur les conditions en foyer et en centre de rétention?
Alors nous, dès le comité des sans-papiers, dès la veille même, nos assemblées générales, c'est le lundi à partir de 18h, donc la veille même du lendemain, ou le lendemain en fait, le président de la République a annoncé le confinement général. Très concrètement, nous avions donc décidé en assemblée générale, là on était réunis, c'est la dernière fois qu'on s'est réunis en assemblée générale de visu, de physique, quoi. De suspendre les assemblées générales physiques, donc de respecter le confinement, de suspendre, ça c'est la particularité du comité des sans-papiers 59, c'est que depuis 24 ans, tous les mercredis, place de la République, face à la préfecture du Nord, nous sommes là, qu'on soit 10 sans-papiers ou 1000 sans-papiers, qu'il est arrivé d'être 1000 sans-papiers, eh bien, on est tous les mercredis depuis 24 ans devant la préfecture, mercredi 18h, à partir de 18h devant la préfecture pour manifester, quoi, en fait, et réclamer la régularisation. Voilà, donc on a suspendu ça aussi, cette action du mercredi, très clairement. Ensuite, on a mis en place effectivement un système WhatsApp, tous les sans-papiers qui sont avec WhatsApp. de communication et donc le bureau s'est organisé en système de WhatsApp et la masse des sans-papiers en a 200 qui sont aussi sur un groupe WhatsApp. Donc ça permet de continuer à communiquer entre nous très clairement et aussi surtout d'organiser effectivement dans le cadre du confinement la poursuite de la lutte sous d'autres formes. La forme par exemple de la solidarité en direction des hôpitaux, des soignants. Donc des repas ont été organisés par groupe de sans-papiers. On a organisé des repas, puis ensuite on a organisé effectivement la distribution de ces repas en direction des, comme acte de solidarité du comité des sans-papiers en direction des soignants. Organisé aussi effectivement par le biais des contacts associatifs, la lutte contre l'isolement des personnes isolées, par le téléphone par exemple, tout simplement. Des sans-papiers ont participé dans les communications téléphoniques, etc. Et ensuite, organisé effectivement aussi en fait des actions de solidarité du genre, de participation au don du sang, etc., courses pour les personnes isolées, etc., etc. Donc ça a été organisé par le biais du groupe WhatsApp mis en place par les sans-papiers, du comité des sans-papiers. Et ça nous permet donc aussi d'avoir effectivement une vision de là où les camarades qui sont les 200 personnes, là, parmi les 200 camarades sans-papiers, ceux qui sont dans les foyers, comment ça se passe. Alors, on nous a rien signalé de particulier, de particulièrement problématique, effectivement. Il y a eu des problèmes, effectivement, au début de distribution des moyens de protection, etc., dans les foyers où habitent les camarades sans-papiers du groupe WhatsApp, donc parmi les 200 camarades qui sont dans le groupe WhatsApp. Bon, on nous a rien signalé de particulier, en tout cas à ce niveau-là, en tant que tel, quoi. Donc, par contre, effectivement, l'aspect bombe sanitaire dans les centres de rétention et dans certains foyers, nous avons particulièrement vu les camarades de Paris, la région parisienne, communiquer là-dessus et nous envoyer donc en fait notamment il y a une pétition et une déclaration effectivement que nous avons co-signée en tant que comité des sans-papiers pour appuyer effectivement. Là par contre on a eu des échos, y compris dans notre groupe WhatsApp, de la part des camarades sans-papiers d'ici, qui sont en contact avec des gens, des sans-papiers qui sont dans des foyers ou qui sont je sais pas, en centre de rétention, effectivement, en région parisienne notamment, quoi, en tant que tel. Alors, nous sommes intervenus, je l'ai dit tout à l'heure, très rapidement en termes de déclaration en direction de la préfecture sur la situation, effectivement, des premiers cas au début du confinement, quand les sans-papiers qui étaient en centre de rétention posaient leur acte qui consiste à dire nous refusons d'aller manger tous ensemble sans précaution. Nous avons donc effectivement fait une déclaration pour dénoncer effectivement cette situation-là et demander la libération de tous ceux qui sont en centre de rétention, quoi, concrètement. Et c'est dans la même semaine, effectivement, que le juge des libertés a quasiment vidé les centres de rétention de l'ECRA. Voilà ce que nous pouvons dire de façon globale, le contexte dans lequel nous sommes et comment nous tentons effectivement de nous organiser.
Alors justement, avec le déconfinement qui commence là, quelles sont les conséquences ?
Donc nous préparons la sortie en juin, ça c'est clair, depuis qu'ils ont annoncé le déconfinement. Donc là il y a une discussion effectivement avec les sans-papiers, entre les sans-papiers, pour préparer la sortie en juin, en tenant compte de deux choses. Un, ce que disent les mesures gouvernementales d'interdit, parce qu'ils disent pas plus de 10 personnes de groupées, etc. Ça, c'est clair que pas plus de 10 personnes, c'est de fait empêcher nos manifestations. Hein. C'est clair, on est au minimum, je dirais même ultra minimum 10, et souvent beaucoup plus, concrètement. Et nous, nous tenons effectivement nos manifestations du mercredi, hein. ça c'est net. Nous sommes prêts à respecter toutes les lois et les mesures pour ne pas apparaître comme ceux qui vont mettre en danger la vie d'autrui, etc., etc., parce que nous voyons bien, hein, tout acte un peu irresponsable peut être utilisé de ce point de vue, non seulement par les fascistes, mais par le gouvernement lui-même, hein, très clairement, contre nous. Ça, on est très conscient de ça. Mais on prépare effectivement la sortie physique, effectivement, en juin, courant juin, très nettement, quoi. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas, pour faire l'état des lieux de notre situation à l'heure actuelle, du mouvement des sans-papiers à Lille.
Est-ce que, en tout cas, vous pouvez peut-être donner des moyens de vous contacter et de suivre vos informations ?
Oui, pour nous suivre nos informations, on a nos Facebook, CSP59, hein, qui est un moyen pour nous contacter. On a un blog aussi, CSP59, et aussi, effectivement, je dirais, le nouveau moyen qui est le WhatsApp, là, bon, mais ça, les camarades qui s'en chargent vont développer, en fait, cet outil-là. Je ne saurais pas en parler, moi-même, je suis complètement nul dans ce domaine-là. Bon, je ne connais pas ces moyens-là, techniques nouveaux-là, qui me dépassent un peu. Mais ceci dit, si j'ai un message particulier à donner au nom du comité des sans-papiers, effectivement, dans la période actuelle, très concrètement, c'est de dire la chose suivante. Il y a un certain nombre de députés et d'associations, organisations, effectivement, qui ont lancé, et même y compris issus du mouvement des sans-papiers, nous en faisons partie en tant que comité des sans-papiers, et je pense que les Parisiens aussi, eh bien, qui lancent l'idée d'une régularisation globale, massive, hein, les sans-papiers, concrètement, donc c'est la formulation historique du mouvement des sans-papiers, la régularisation de tous les sans-papiers. Les Portugais l'ont annoncé à leur manière, les Italiens à leur manière, tout dépend du niveau d'organisation des sans-papiers en tant que tel. Il est grand temps, effectivement, que le mouvement des sans-papiers, qui a historiquement été coordonné à l'époque par la Coordination nationale des sans-papiers, avec beaucoup d'actions nationales à l'époque, eh bien, reprenne un peu du poil de la bête et que les sans-papiers sortent massivement, parce que c'est la condition de la régularisation massive. Si on veut obtenir la régularisation massive, il faut que les sans-papiers sortent partout massivement et s'auto-organisent massivement en lien avec le mouvement démocratique de ce pays et le mouvement syndical, pour exiger la régularisation de tous les sans-papiers. Nous, comité des sans-papiers, nous prendrons toute notre place dans ce mouvement collectif que nous espérons, national.
Effectivement, monsieur Anzoumane Sissoko me parlait de trois grandes revendications en temps de confinement, qui étaient donc la régularisation inconditionnelle de tous les sans-papiers, la fermeture des CRA et la suspension des loyers du foyer pendant le temps du confinement. Est-ce que ces deux premières revendications, donc la régularisation et la fermeture des centres de rétention, finalement, ne sont-elles pas des revendications que vous portez même en dehors des temps de confinement ?
Évidemment, mais nous y ajoutons une chose, le droit de vote à l'immigration. Il est clair que nous lions la lutte de l'immigration, la partie illégale de l'immigration, celle qui est contrainte et forcée à être mise en situation illégale par les lois, qui fabriquent des sans-papiers tout simplement, avec le fait qu'effectivement il y a un lien avec les luttes de l'immigration régulière. Et ça, c'est nous semble important. Troisième point qui nous semble important, c'est le lien guerre et sans-papiers. Ce pays ne peut pas continuer, effectivement, et l'Europe de façon générale, les États-Unis en plus, continuer à faire des guerres partout, produire effectivement des gens qui sont forcés à l'exil et après se barricader au nom de et refuser de régulariser les gens. Il faut être très clair, quoi. Donc nous ajoutons trois revendications de Sissoko là, avancées par Sissoko. Eh bien, nous ajoutons ces trois revendications là aussi, à savoir effectivement un, le droit de vote à l'immigration, de l'immigration. Deux, la question effectivement de plutôt de la question du lien de la lutte pour la paix contre les guerres. Ça me semble important. Après, on peut ajouter contre les dictatures, etc. L'aspect solidarité avec les peuples africains qui luttent aussi, bon, ça c'est une autre dimension, quoi, complètement. Mais ces deux éléments-là, éléments principaux qui fabriquent les derniers, dans la dernière période, effectivement, la vague des migrants et des exilés, c'est les guerres. Ce sont les guerres de l'OTAN, les guerres, effectivement, en Libye, guerre en Syrie, etc., etc. Guerre dans le Sahel, il faut être clair, très nettement, où des soldats français meurent d'ailleurs. En nous ajoutant cet élément-là, concrètement, il me semble que le pays de Anzouman est un pays directement touché par ça, le Mali, en tant que tel. Et deuxième élément, le droit de vote à l'immigration à toutes les élections.
Donc, M. Sissoko m'a parlé d'un appel à une manifestation le 30 mai. Est-ce que, au niveau donc, local du nord de la France, il y aura un appel local pour cette manifestation?
Alors, on en a discuté la fois dernière, effectivement, dans le groupe WhatsApp de cet appel. C'est moi-même qui ai donné l'information de l'existence de cet appel pour le 30 mai, la sortie pour le 30 mai, concrètement. Alors, nous n'avons pas tranché ça. Nous avons dit, effectivement, qu'on se donne le temps de réflexion par rapport à ça, sur les questions tactiques. Tactiques qui sont liées aussi, effectivement, à la revendication de la régularisation de tous les sans-papiers. Une des armes possibles contre le mouvement et la revendication actuelle posée dans le contexte effectivement du confinement et de la lutte contre la pandémie du Covid-19, c'est tout acte peut être utilisé effectivement contre le mouvement des sans-papiers en termes de nous faire passer pour des gens irresponsables qui veulent mettre la... qui s'en foutent des Français, qui veulent mettre la vie des Français en danger, etc. Donc, ces questions, ces considérations, effectivement, qui semblent, considérations, effectivement, tactiques ou secondaires, sont pour nous, dans notre démarche, en tout cas militante, très, très importantes. C'est-à-dire, construire une image, effectivement, non pas d'opposition aux Français, mais de justement, de complémentarité, de vivre ensemble, effectivement, dans l'objectif, effectivement, du progrès démocratique dans ce pays et de la régularisation de tous les sans-papiers. Donc, c'est de ce point de vue que nous posons la question, de savoir, effectivement, le 30 mai, là, quelle sera la situation, exactement, qui permettra, effectivement, d'envisager d'une sortie. Si nous sommes toujours confrontés, effectivement, à une forme de confinement qui non dit, qui consiste à dire, effectivement, on ouvre les écoles, de façon crescendo, et ensuite il y a tels endroits qui sont accessibles, tels endroits, le nombre de personnes qui peuvent se mobiliser, etc., ou qui peuvent être ensemble en fait à un endroit donné, très clairement. Donc c'est tout ça que nous sommes en train d'étudier pour voir la faisabilité du 30. Donc nous ne sommes pas pour le moment effectivement dans la position qui consiste à dire non au 30 ou oui au 30, mais la question est effectivement de savoir quelle est la situation au moment où on arrive vers le 30, concrètement pour dire et préparer la sortie. Nous voyons plutôt en juin, parce qu'à un moment donné, la tactique du gouvernement qui consiste effectivement à maîtriser la sortie, nous devons la prendre en compte très concrètement en tant que mouvement des sans-papiers pour ne pas être effectivement contre-productif par rapport à une image qui serait une image dangereuse déjà largement construite par les médias. De ce point de vue, le rapport de force nous est pas très favorable, quoi. Donc voilà un peu l'état de notre réflexion là-dessus. Mais nous répondrons effectivement au moment opportun à cet appel pour le 30 juin. Le 30 mai. Voilà.
Nous venons donc d'écouter M. Anzouman Sissoko, porte-parole du comité des sans-papiers 75, puis M. Roland Diagne, porte-parole du comité des sans-papiers 59.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
C'était comme toujours sur Micro Rebelle de la musique libre avec le groupe Mela qui nous a joué Free Time. Nous poursuivons ce Micro Rebelle hebdo avec un nouveau reportage. On en parlait tout à l'heure, certaines écoles ont rouvert cette semaine en maternelle et en primaire. Les collèges vont rouvrir cette semaine. Quant aux lycées, ce ne sera pas avant juin pour les lycées qui reprendront. Les lycéennes et lycéens continuent donc les enseignements à distance. Nous leur donnons ici la parole au travers ce reportage de Luc, ou plutôt le début de ce reportage, car pour des questions de format de ce micro-rebelle hebdo, nous ne pouvons le diffuser en intégralité. N'hésitez donc pas à le retrouver sur notre site micro-rebelle.fr. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bye bye.
Pour les lycéennes et lycéens, ce qu'on a appelé la continuité pédagogique est vécu différemment selon l'outillage en matériel informatique, la charge de travail, l'environnement familial ou encore le milieu social. Bien conscients des incuries du ministère de l'Éducation nationale, des élèves du bassin minier et de l'Arageois formulent ici des points de vue critiques sur l'école à distance, les inégalités, une possible reprise, la gestion globale de l'enseignement à distance.
Alors moi je suis Aymeric Lemaire, je suis élève en terminale ES au lycée Henri Darras de Liévin et je suis aussi membre du conseil municipal jeune de Liévin. Pour ma part ça va, j'essaye de tenir le rythme parce que évidemment les cours à distance n'ont rien à voir avec le cours en présentiel au lycée, il faut s'adapter. C'est pourquoi je souhaite tout de même insister et saluer la réactivité des professeurs finalement. Puisqu'ils se sont adaptés très rapidement face à la fermeture des établissements depuis le 12 mars. Et ça prouve bien que cette continuité pédagogique qui relève somme toute de la communication du ministère ne se fait pas grâce bien évidemment au ministère, mais bien évidemment grâce aux professeurs, puisqu'ils sont évidemment en première ligne. Depuis le début du confinement, on est avec le ministre Blanquer, on nage dans le flou total. Flou tout d'abord avant les annonces qu'il a faites par rapport au bac, puisqu'on ne savait pas si effectivement on devait continuer à bosser à fond ou si on devait ralentir la cadence, bien que elle est juste normale, jusqu'à ce qu'il nous dise qu'effectivement le bac se fera sur le contrôle continu. Après, on nous dit que un coup ça va être obligatoire, un autre coup, une autre fois ça ne l'est pas. On voit bien que finalement on a un ministre hors sol parce que effectivement il ne connaît pas le terrain. Moi je pense que cette continuité n'en est pas une, cette continuité pédagogique n'en est pas une. C'est juste de la communication gouvernementale. Le ministère a inventé un nouveau slogan, oui, nation apprenante. Alors effectivement, ça peut paraître beau. C'est bien beau aussi de nous faire quelques pseudo-cours à la télévision, d'accord.
Moi, je m'appelle Camille Galbert, je suis élève en première générale au lycée Léo Lagrange de Bulgénine et j'ai 17 ans. L'école à distance, et ça change un petit peu de l'école classique parce qu'il faut suivre les cours à travers un ordinateur, s'organiser pour les récupérer via les différentes plateformes que les profs mettent en place. Mais après, je trouve pas ça trop compliqué à faire parce que les professeurs envoient des exercices, on a des cours en direct à certains moments. Donc je trouve que c'est assez bien pour réussir à suivre, mais faut être bien organisé pour pouvoir pas se perdre dans les devoirs à faire ou oublier quelque chose à rendre. C'est parfois compliqué, mais c'est parfois bien aussi parce qu'on peut s'organiser comme on veut en fait.
Je m'appelle Antonin Edouard, je suis en terminale scientifique au lycée Henri Darras. J'ai 17 ans, je suis coordinateur étudiant à la jeunesse communiste du Pas-de-Calais. C'est assez compliqué parce qu'il y a peu de moyens qui sont mis en œuvre. Il n'y a pas tous les profs qui font des cours en ligne. Aussi, il y a une perte de motivation avec le fait qu'on ait déjà le bac en soi. En fait, on n'a presque pas de cours. Du travail, une semaine on en a beaucoup, une semaine on en a presque pas. Aussi, les profs galèrent beaucoup avec les ordinateurs, tout ça. Personnellement, j'arrive pas du tout à être concentré chez moi, parce qu'il y a des frères, les sœurs, tout ça. Beaucoup de bruit. J'ai pas une chambre pour moi tout seul, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de lycéens aussi, de collégiens. Donc, c'est assez compliqué de travailler dans ces conditions.
Moi, c'est Chloé, je suis lycéenne en terminale ES à Guimolais, à Arras. Et je suis aussi la responsable fédérale de l'UNL, qui est un syndicat lycéen, et du Pas-de-Calais, du coup. Voilà. Et je suis aussi membre de la coordination lycéenne nationale. Alors après, moi, mon cas est un peu particulier parce que je suis en foyer jeune travailleur. Du coup, forcément, la continuité pédagogique est encore plus dure pour nous que pour un lycéen lambda, disons. Parce que, bah, évidemment, on a une connexion Wi-Fi qui est très merdique et qui ne fonctionne que dans la salle informatique. Plus, on n'a pas forcément tous un ordinateur par personne. Par chance, moi, j'en ai un. Et du coup, bah, des fois, il m'arrive de devoir le prêter à mes camarades pour qu'ils puissent aussi faire leurs devoirs. Et ouais, c'est un peu compliqué. Par exemple, je peux pas avoir de cours virtuels. C'est-à-dire que les plateformes visuelles pour faire les cours, ça marche pas. J'ai pas suffisamment de connexion, ce qui fait qu'en fait, mes cours se réduisent à juste des mails, plus des profs auxquels bah, j'ai aucun contact. Et comme j'avais pas leur mail avant, j'ai aucun moyen de les contacter. Donc ouais, la continuité pédagogique, j'appellerais pas ça une continuité, quoi.
Je m'appelle Dotra Mérine, j'ai 17 ans. Et je suis scolarisée au lycée de Bully-les-Mines, Léo Lagrange. Et je suis en terminale commerce bac pro. Presque tous les jours, je vais sur l'espace numérique de mon lycée, voir si les profs ne mettent pas des leçons ou des devoirs, tout ça. Et puis s'il y a des devoirs, je les télécharge, je les fais. Et comme si j'étais en cours, je les colle dans mon cahier, je fais les fiches, je les envoie à mes professeurs. Et bah, pour moi, ça se passe très très bien. Parce que personnellement, on peut bien gérer notre programme, du genre faire ce qu'on veut le matin. Si on veut dormir, on dort. Si on veut faire ce qu'on a à faire, jouer par exemple, colorier ou même faire ce qu'on aime, on peut. Et après, ouais, c'est tout dans un programme bien chargé de la journée, les programmes de la semaine ou tout ça.
Au niveau de la charge de travail, bah, je dirais que pour le moment, ça va. Les profs nous laissent quand même assez de marge pour s'approprier le cours. Et donc, au niveau de la charge de travail, pour ma part, ça va. Après, je ne sais pas ce qu'il en est, évidemment, des autres élèves, parce qu'évidemment, tous ne s'adaptent pas de la même manière. Nous n'avons pas tous non plus d'ordinateur. Certains ont simplement un téléphone pour pouvoir consulter les cours qui nous sont envoyés. D'autres n'ont pas de connexion Internet.
Au début, c'était assez compliqué parce que les profs savaient pas trop comment faire. Donc, ils envoyaient tous beaucoup de devoirs pour nous faire travailler. Et en fait, là, petit à petit, et là, depuis la rentrée des vacances, les professeurs sont un peu plus cool, on va dire. Et ils nous laissent plus la possibilité de travailler un peu plus comme on veut. Mais je pense que après, oui, il y a certains professeurs qui envoient pas mal de choses et peut-être s'en rendent pas compte. Mais en fait, après, une fois qu'on leur dit, ben, il y a peut-être un peu beaucoup de travail, je pense qu'ils sont assez compréhensifs et ils nous répondent que, ben, ils vont baisser un petit peu la charge de travail. Et après, je sais que c'est peut-être un petit peu stressant pour les élèves parce que il y a les parents qui sont parfois derrière et qui disent, mais t'as pas trop de devoirs et des trucs comme ça. Et en fait, les professeurs qui sont aussi derrière en disant, ben, tu dois m'envoyer ça pour demain ou les trucs comme ça. Donc,
pour la plupart, on sait déjà qu'on a le bac avec le contrôle continu. La pression, elle est plus pour ceux qui sont en difficulté déjà de base, qui sont à 8, 9 de moyenne, qui savent qu'ils vont encore devoir travailler encore plus que d'habitude, parce que on leur a retiré leur dernière chance, qui est les épreuves du bac. Au niveau des parents, pour les miens, ça va. Ils savent que je travaille bien, tout ça, donc ça va. Et après, c'est pour Parcoursup aussi. Ça va être compliqué. On attend les résultats le 19 mai. C'est assez stressant. D'un point de vue technologique, c'est assez compliqué. Parce que il y a beaucoup de profs qui ont du mal avec ça. Et au niveau de la continuité, ça dépend des profs en soi. Hein. Il y a des profs qui vont continuer comme si on était en cours normal. Il y en a d'autres qui vont limite s'acharner encore plus, finir le programme à tout prix. Et il y en a d'autres
qui attendent leur prise, quoi, tout simplement.
Déjà, la charge de travail, elle est forcément plus élevée, et ça, c'est pas vraiment la faute de nos profs. Disons qu'ils peuvent pas forcément se rendre compte de la différence entre du travail à la maison et du travail en classe. Donc, du coup, ils ont tendance à plus nous donner. Comme c'est par mail, on se sent vite débordé parce qu'on a l'impression qu'il y a 40 mails qui arrivent dans la journée. Et en plus de ça, il y a une certaine pression parce qu'en fait, comme on sait pas, on a aucune idée de vraiment comment vont se passer les modalités du bac. On nous parle de contrôle continu, mais finalement, on sait pas si on va avoir des notes pendant le troisième trimestre parce qu'on sait pas si ça va reprendre, machin. Ce qui fait que d'un côté, on est perturbé entre se dire, est-ce qu'on doit continuer de bachoter comme nous l'a appris le système scolaire toute notre vie? Ce pour lequel d'ailleurs je suis pas d'accord, mais on n'a pas le choix de le faire en fait, parce que c'est comme ça en fait, le lycée c'est du bachotage. Ou est-ce que on peut cette fois apprendre de manière plus pédagogique et moins en mode t'apprends par cœur et à la fin tu sors du lycée et t'as rien retenu? On sait pas, parce qu'en fait d'un autre côté il y a un fossé entre la fac et le lycée, quoi. Parce que moi j'ai par exemple déjà mon bac, je suis un peu perturbée entre est-ce que je continue de bachoter alors que de toute manière j'ai déjà mon bac, mais si j'arrête de le faire, est-ce que je vais pas me retrouver aussi avec un fossé encore plus grand quand je vais arriver à la fac? On sait pas, quoi, on est complètement dans le flou et on a aucune idée de la manière dont on doit travailler, quoi. En sachant qu'il y a des profs qui ont arrêté de nous donner des cours du coup, au vu du fait que pour eux, ça a plus d'intérêt, comme de toute manière, si on reprend en juin, il y aura qu'un mois. Donc on a parfois plus de nouvelles de certains de nos profs, quoi.
Beaucoup de travail, non. Parce que, personnellement, il n'y a pas tous les profs qui mettent du travail, donc, beaucoup de travail, non. Après, c'est question d'organisation. On n'est pas surchargé, mais on n'en a pas moins non plus que ce qu'il faut, donc, non. Quand on n'est pas motivé, clairement, on n'a pas envie de rien faire de tout ça. On n'a pas envie d'aller aux vidéoconférences que les profs, nous donnent. Donc, s'il n'y a pas la motivation, je pense que ça le fait pas. Pour moi, être motivé, c'est avoir un projet d'avenir, comme moi j'en ai un personnellement, parce que après mon bac, je compte partir à l'étranger pendant 1 ou 2 ans. Donc moi, ma motivation, c'est ça, et je me dis que il faut que j'ai le bac, il faut que j'ai le permis. Bon, ça c'est un peu une parenthèse, mais il faut que j'ai ça. Donc il faut que je travaille, même si ça m'ennuie, il faut que je donne le meilleur de moi-même pour vraiment réussir ce projet et faire ce que je veux plus tard.
Sous le quinquennat précédent, il y avait un plan d'équipement numérique qui avait été mis en place, qui prévoyait d'équiper progressivement, à hauteur d'1 milliard d'euros par an, progressivement les élèves, soit d'un ordinateur portable, soit d'une tablette, pour effectivement suivre les cours, aider les élèves à s'approprier le numérique, sans bien évidemment trop passer de temps devant les écrans. Et on se rend compte que depuis 2017, depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation, on n'entend plus parler de ce plan d'équipement numérique. Donc je me demande finalement si ce plan avait continué, était poursuivi dans la durée, si finalement est-ce que grâce à ces équipements, à ces tablettes, ces ordinateurs qui auraient pu servir à des élèves, si on serait pas dans cette situation-là, parce que on le voit bien. Tous n'ont pas d'ordinateur, de connexion Internet, etc. Le pourcentage d'élèves décrocheurs, alors Jean-Michel Blanquer a dit qu'il y avait 4% d'élèves décrocheurs. Je pense bien évidemment que ce chiffre est totalement sous-estimé. Après, concernant effectivement le temps passé sur les écrans, pour ma part, au début du confinement, je passais mes journées entières sur mon ordinateur. Bien évidemment, j'essayais aussi d'imprimer les cours pour éviter... parce que moi j'ai la chance d'avoir une imprimante, ça faut le dire aussi. Moi j'essayais donc d'imprimer les cours pour éviter de passer trop de temps sur l'ordinateur. Honnêtement, à la fin d'une journée passée sur mon ordinateur, même en faisant des pauses pour déjeuner ou pour manger un petit biscuit dans l'après-midi, à la fin de la journée j'ai les yeux explosés et la migraine arrive très très soudainement.
C'est vrai que les professeurs envoient beaucoup de travail ou qui nécessite de passer du temps derrière les ordinateurs. Mais après, c'est vrai que oui, le danger des écrans a vite été oublié parce que on nous incite beaucoup à travailler derrière l'ordinateur pour rendre un DM ou quelque chose comme ça où il faut le taper à l'ordinateur. Donc, on passe du temps derrière les écrans. Mais après, je pense que en tant qu'élève, on se responsabilise un peu et on se dit d'accord, bon bah cet après-midi je vais travailler sur mon ordinateur, mais sinon en fin d'après-midi par exemple j'ai un livre en français à lire, ben je vais aller lire mon livre ou je vais travailler sur papier. Et puis je pense que personnellement, moi en tout cas, j'essaye de passer le moins de temps possible sur un ordinateur.
Déjà, il y a des problèmes d'inégalité, enfin de fracture numérique qui est ultra importante, et que d'ailleurs, il serait bien que le gouvernement se rappelle qu'elle existait déjà avant. Moi, il me fait bien rire avec « Non, mais il y a des inégalités sociales, donc du coup, ce serait bien qu'on reprenne les cours pour que ces inégalités n'existent, enfin, soient moins présentes. » Alors déjà, elles existaient avant, de deux, elles existeront après, et en fait, pendant le confinement, on fait juste les inégalités, elles font juste que c'est juste les masques qui tombent, quoi. On fait juste que les voir plus. Donc, et là, à se retrouver à devoir toute la journée être déjà rien que d'un point de vue de santé, je suis pas sûre que ça soit très bon de passer sa journée sur un ordinateur. Et en plus de ça, la pression, elle est énorme, quoi. Parce que même si t'as tout ce qu'il faut chez toi pour assurer une continuité pédagogique, ben il y a tellement de flou et tellement de pression que même moi qui n'ai pas trop à me plaindre, parce que malgré que j'ai une connexion pourrie, j'ai quand même un ordinateur, j'ai quand même accès aux mails et machin, et en soi, je suis suffisamment autonome si je le veux pour aller chercher sur Internet, etc. Mais il y a des meufs dans mon foyer qui c'est très compliqué, parce qu'en fait, nous, on n'a pas les parents derrière, et même pour ceux qui les ont, entre les parents qui font du télétravail, l'ordinateur qui en a qu'un dans la famille et qui du coup se balade de main en main et qui du coup c'est galère. Moi j'ai des copains qui sont obligés de faire leurs devoirs à 22h, quoi, parce que bah toute la journée leurs parents sont sur le télétravail et qu'ils n'ont pas le choix eux aussi. Il faut, enfin sinon ils sont pas payés, quoi, ils n'ont pas le choix d'assurer.
Moi je trouve que le problème c'est que on n'a pas tous les moyens de se procurer des outils numériques. Comme moi j'ai pas les moyens malheureusement de payer un ordi portable, du coup je suis beaucoup sur mon téléphone. Et ce qui entraîne une surcharge et que bah mon téléphone va de moins en moins parce que je suis beaucoup plus dessus que je ne le suis d'habitude. C'est compliqué mais utile à la fois.
La continuité pédagogique a des défauts majeurs. Mal anticipée, elle a contraint les enseignants et enseignantes à une adaptation rapide dans des conditions d'urgence et selon des modalités auxquelles ils n'étaient pas préparés. Elle comporte aussi un risque accentué de décrochage scolaire, d'autant plus dans les milieux défavorisés où les outils numériques peuvent venir à manquer. Paradoxalement, la fracture numérique révélée par le confinement occulte en partie les risques psychosociaux qu'implique l'utilisation des ordinateurs. De là à décréter une vacance pédagogique, les avis sont partagés.
Ça renforce vraiment beaucoup les inégalités qui existaient déjà. Je sais qu'il y a des élèves, par exemple, dans mon lycée qui n'ont pas accès à un ordinateur. Et au départ, au lycée, c'était un petit peu la panique de se dire « qu'est-ce qu'on va faire pour ces élèves ?» Bon, après, il y a eu différentes actions qui ont été mises en place par la région pour prêter des ordinateurs ou les lycées qui prêtent des tablettes. Donc, les lycées essayent de retenir les élèves, mais en fait, je pense que à cause de ce confinement, il y a quelques élèves qui sont perdus. Et je sais que dans mon lycée, par exemple, nous, avec le conseil de la vie lycéenne, on insiste pour que le lycée et les professeurs envoient les devoirs par courrier et continuent de prendre des nouvelles des élèves. Ne serait-ce que téléphoner une fois dans la semaine ou plusieurs fois dans la semaine, je pense que c'est quelque chose d'important pour garder le contact et le lien avec la famille et l'élève.
On a qu'un seul ordinateur dans la famille pour 4 enfants. Je viens d'un milieu ouvrier. C'est assez compliqué. Déjà, cet ordinateur-là, il est pas très récent. Il bug beaucoup. Et on a pas forcément les moyens d'en acheter un deuxième. Et déjà, celui-là, ça a été très compliqué. Donc je sais qu'il y a des familles qui sont encore plus difficultés que la mienne. Donc j'ai même pas imaginé comment ça va être compliqué.
Le problème c'est que du coup il y a tellement de flou et de mesures, enfin de comment dire, d'annonces gouvernementales qui changent tout le temps, qu'on n'a même pas le temps de trouver des solutions aux inégalités sociales et que pour nous la seule solution qu'on a, pour nous, c'est le bac donné à tout le monde. On voit pas d'autres solutions. Et ne pas reprendre en cours en septembre. Parce que dans ces cas-là, le bac donné à tout le monde dégage les inégalités, enlève le problème des inégalités du contrôle continu. Et le fait de reprendre en septembre dégage le problème de la fracture numérique, puisque de toute manière, les deux combinés ensemble, si le bac est donné à tout le monde, du coup, la fracture numérique, c'est moins grave sur le moment. Il faudra la régler, c'est ultra important. Et d'ailleurs, ce confinement a permis de pouvoir le visibiliser, de pouvoir faire conscientiser les gens en leur disant, bah, vous voyez, vous vous rendez compte du nombre de pourcentage d'élèves qui sont en fracture numérique. Maintenant, il va falloir changer ça. Et pour nous, c'est important, en fait, de reprendre en septembre, de donner le bac à tout le monde pour dégager les inégalités liées au contrôle continu, etc. Et de bien préparer la rentrée, et d'arriver, en septembre et de leur dire maintenant, vous voyez, le coronavirus et le confinement, voilà ce qu'il a montré. Maintenant, il va falloir le changer. Honnêtement, oui, on prépare le mouvement social une fois la fin du confinement, ça c'est clair.